Il est donc 17h, donc on va commencer. Je vais vous rappeler. Alors d'abord, merci d'être aussi nombreux à cette dernière balade. Il y a trois balades qui se déroulent en même temps, qui concluent 30 balades sur la journée, et parfois dans des conditions très difficiles. Ce matin, notamment, sous des rideaux, des trompes de flotte. Mais il y avait du monde. Bon, pas des centaines, hein, mais quand même, il y avait toujours. Aucune balade n'a été annulée. Là, aujourd'hui, on bénéficie tout d'un coup d'une éclaircie géniale. On va en profiter. Alors, c'est une balade. Le thème, c'est « Un homme est mort », « Brest la rebelle ». On va parler du 17 avril 1950. On va raconter ce qui s'est passé exactement ce jour-là. Et pour ça, on va faire deux choses. D'abord, je vais être accompagné de Josy Mazet, qui est là. Je vais lui demander... Alors, avant de la présenter, je vais vous raconter ce qui se passe quand même, hein, parce que c'est le 17 avril 1950, il y a une grande manifestation ici à Brest, là où on est, et cette manifestation va se terminer dramatiquement par la mort, l'assassinat d'un ouvrier, Édouard Mazet, qui va être tué par les forces de l'ordre. Cet assassinat aura de grandes répercussions jusqu'au niveau national. Alors, pour reconstituer cette manif, parce que c'est ça qu'on va faire, on va tâcher ensemble de reconstituer la manif afin que ce trajet, vous verrez, hein, il est court. Ce trajet, hein, on ne m'entend pas, peut-être assez... Est-ce qu'on peut monter un peu la sono ? Afin que ce trajet s'inscrive un peu dans nos corps à nous, 60 ans après. Et donc, je disais... que pour se balader, je suis accompagné donc de Josy Mazet, qui est la fille de Pierre Causien. Pierre Causien qui, lui, va être blessé pendant les tirs des CRS ou des gendarmes mobiles. Je te passe la parole.
Alors, je suis chargée de vous donner les circonstances. Amis brestois, rappelez-vous, même si vous n'étiez pas encore né, et surtout si vous n'étiez pas encore né, rappelez-vous quand même cette année-là. 1950. Il y a 5 ans que la guerre est finie. 5 ans seulement et 5 ans déjà. 5 ans seulement. Parce que ça veut dire que les Brestois d'alors, les Français d'alors, le monde entier d'alors, avaient vécu la guerre. Étaient présents là, très présents encore, les deuils, les souffrances, les restrictions. Et... 5 ans déjà, parce que les choses vont vite. Les enjeux sont énormes. En 5 ans, beaucoup de choses vont changer. Sur le plan économique, les Américains sont les grands gagnants de la guerre. La guerre leur a boosté leurs industries alors qu'elle a ruiné les industries européennes. Ils vont monnayer leur soutien financier. Deux conférences vont mettre ça au clair. Les dollars iront aux nations propres, qui se seront débarrassés des communistes et des syndicats trop revendicatifs. Il y a deux événements, la conférence de Fulton en 1946, rappelez-vous, et le plan Marshall en 1947. Les gouvernements européens s'y soumettent. En 1947, les ministres communistes sont renvoyés du gouvernement français. toutes les manifestations ouvrières sont violemment réprimées partout en France. Et c'est très dur. Je vous rappelle que les forces politiques en présence en 1950. Il faut se rappeler. Le MRP, Mouvement des Républicains Populaires, auquel appartient André Colin, secrétaire d'État à la police, député du Finistère Nord. C'est le nom du bateau qui va à Ouessant régulièrement et qui passait sous les fenêtres de mon père pendant des années, pendant le reste de sa vie. André Colin, rappelez-vous. Il y a aussi le RPF, qui est la droite plus classique, à laquelle appartient Chupin. C'est quoi son prénom ? Alfred. Alfred Chupin, le maire de Brest. Il y a la SFIO, les socialistes d'alors, qui sont représentés par le président du Conseil. Il y a les radicaux de gauche, qui, comme Cueil, qui est le ministre de la police. Et donc, ces gens-là se mettent d'accord pour gouverner ensemble. Et pour cette période, encore sur ce plan-là, on dira qu'ils ont peur des communistes qui viennent de faire, aux dernières élections du Conseil d'État, 29,3%. Des suffrages. Les patrons veulent faire des affaires en France et dans les colonies. La guerre d'Indochine vient de commencer et ceux qui luttent contre elle sont sévèrement réprimés, arrêtés. Par exemple, les dockers, ceux de Toulon comme ceux de Brest, qui empêchent l'embarquement du matériel militaire, ils sont arrêtés, ils sont licenciés. Il y a également des, si vous vous rappelez, il faut se rappeler également donc les banderoles. Rappelez-vous toutes ces banderoles de toutes les manifs d'alors. C'est écrit pain, paix et liberté. Alors je crois que pour ces éléments nationaux, peut-être ça suffira pour l'instant s'il y a d'autres intervenants. Voilà, juste peut-être une petite anecdote pour finir. Est-ce que vous vous rappelez, monsieur, je vais prendre mon nom parce que j'ai peur de l'écorcher son nom. J'ai peur d'écorcher son nom. Alors, il s'appelle Bargon. Est-ce que vous vous souvenez du commandant Bargon ? C'était le commandant des forces de police à Brest. Et c'était une grande figure de la résistance. Il y avait des manifestations réprimées dans le sang partout en France, celle des mineurs par exemple en 1947, mais pas encore à Brest. En juillet 1948, Bargon reçoit sa mutation d'office. Alors rappelez-vous la gare de Brest, c'est à peu près la même qu'aujourd'hui. Il y avait le commandant Bargon sur le quai. Je suis émue parce que mon père m'a souvent raconté cette anecdote qui est grave. Le commandant Bargon était sur le quai et les gardiens de la paix venaient un à un lui serrer la main et lui dire leur regret de le voir partir. peut-être normal, mais il y avait là aussi tous les délégués syndicaux de la ville de Brest et le représentant de l'UL-CGT, Fañch Manac, que moi j'ai connu et que peut-être quelques-uns d'entre vous ont connu aussi. Au nom de tous ces syndicalistes, Fañch Manac est venu sur le quai de la gare de Brest dire au commandant Bargon combien ils étaient, mais vraiment ulcérés de le voir renvoyé de la ville parce qu'il ne frappait pas assez fort contre ceux qui revendiquaient. C'était en 1948. D'autres sont venus après qui ont fait le bon travail comme il faut.
Merci Josie. Et donc là, vous avez le contexte international et national. Et là, je vais passer la parole pour se présenter, la parole à Ernest Mazet, et qui lui est un témoin de premier ordre parce qu'il est le frère d'Edouard et il était présent à ses côtés lors de cette manif. Je me présente.
Oui, je me présente. Oui, Edouard Mazet, mon frère Edouard.
Je te le tiens.
Oui, je vais le tenir.
Vas-y, ça va comme ça?
Vas-y, pars.
Oui, mais je suis le frère d'Edouard. J'étais avec lui aux manifestations. Et évidemment, nous avons eu beaucoup de... Ce jour-là était une journée très dure.
Faut parler tout près, ouais, comme ça. Vraiment le micro.
Oui, la journée de grève de ce jour-là a été très dure. On était quand même, je pense, plus de 1000 ou 2000 grévistes. Depuis un mois, nous étions sans rien. Et finalement, eh bien, il y a eu cette terrible assassinat, on peut dire, de mon frère, d'Edouard. Ouais. On a eu l'aide de beaucoup de gens. Par exemple, les paysans sont venus nous apporter du lait, des patates, parce qu'on n'avait plus rien, on ne mangeait plus, on n'avait pas d'argent. Et les ouvriers de l'arsenal nous ont donné un bon coup de main aussi. Et finalement, on a quand même tenu le coup. Puis voilà ce que je voulais vous dire.
Merci Ernest. Ah, je vais parler plus loin. Donc voilà, là j'ai déjà présenté deux intervenants. Les autres, puisqu'on est resté longtemps ici et c'est une balade, donc on va se balader. Je vais vous les présenter au prochain point fixe. Ce qu'on va faire, on va aller tout simplement là où a démarré cette manifestation du 17 avril 1950, c'est-à-dire à l'entrée de la maison des syndicats de l'époque. Vous allez me suivre et on va la retrouver. Ça va nous permettre aussi de redécouvrir le Brest de cette époque. On va aller vers là. Alors, la sono suit. Alors, j'aurai d'autres invités à vous présenter. Je vais vous laisser la surprise. Il y en a qui l'ont déjà reconnu. On va attendre d'être arrivé au cinéma Liberté. Donc là, pour donner un peu la couleur locale, pour que vous visualisiez bien ce qui se passait, en tout cas visuellement. On est sur la place de la Liberté. À l'époque, cette place existait déjà, mais n'avait pas du tout cette forme-là. Ici, ce qu'on trouvait, c'était un énorme terre-plein. C'est donc, on est au sortir de la guerre. Il n'y a plus aucun bâtiment, en tout cas tous les bâtiments qui entourent la place, la mairie bien entendu, mais tous les bâtiments qui sont autour n'existent pas, pas encore. C'est donc... Ah, attendez.
Déplace-toi.
Voilà. C'est donc une sorte de grand terre-plein. Et sur ce terre-plein, il y a des baraques. Des baraques qui contiennent des magasins. Et en fait, c'est la cité commerciale de Brest de l'époque. Et donc ici, il y avait des rangées de baraques qui étaient autant de magasins. Les enfants de dialogue, toute cette partie-là aussi, c'était aussi des magasins. Notamment, il y avait les Dames de France. Il y avait Monoprix, il y avait la librairie de la cité qui était là en baraque. Et si elle s'appelle librairie de la cité, parce qu'elle n'existe plus, mais pour les Brestois, cité, ça venait justement de la mémoire, ça veut dire la cité commerciale. Et Monsieur Lebrize avait choisi de garder ce nom, la cité, pour rappeler ça aux Brestois. Donc ici, on est sur un terre-plein rempli de baraques commerciales. On va continuer la balade. On va s'approcher du cinéma, qui bien sûr n'existait pas. Alors ce qui existait, par contre, c'était l'hôpital Morvan, qui était construit avant-guerre. Et il existait avec son entrée caractéristique. Tout ça était déjà construit, était en place. Mais tout autour, c'est des terrains vagues, des baraques et des ruines. Parce qu'il y avait eu les bombardements. Et donc là où il n'y avait pas de baraques, c'était des ruines.
Je rappelle également, et rappelez-vous, que tout le monde sait les destructions de Brest à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais quelquefois on a oublié qu'en 1947, Brest est sinistrée une deuxième fois et que beaucoup de la reconstruction est à nouveau anéantie et qu'il faut tout recommencer à zéro puisque le bateau, l'Océan Liberty, un bateau norvégien chargé de nitrate, explose en rade de Brest et fait des dégâts énormes au plan humain et au plan matériel qu'on peut largement comparer à ceux de toute la guerre. Donc il faut tout recommencer. Il y a donc plein de ruines à nouveau.
Donc là, on va traverser, on va aller tout droit. Alors, on a parlé du maire tout à l'heure. On a parlé du maire Chupin, Alfred Chupin. Il faut savoir que juste là, dans les bâtiments que vous voyez sur votre droite, en fait, ici, il avait son entrepôt parce que le maire était aussi un entrepreneur. Et donc, il avait une sorte de magasin de plomberie, chauffagerie. Et il vendait du métal. Donc, son entrepôt était là, à l'intérieur, comme s'il était à l'intérieur des bâtiments. On va traverser à gauche, on va vraiment vers le cinéma. Et là, on se rapproche donc de la maison des syndicats. Donc, on est le 17 octobre 1950. Et bien, comme vous êtes nombreux là aujourd'hui, ça rappelle un peu l'idée que ce jour-là, beaucoup de monde, beaucoup d'ouvriers se massent devant la maison des syndicats. Alors voilà, ce que vous voyez, le boulevard Clémenceau, n'existait pas non plus à l'époque. Ici, je rappelle, on est toujours en terrain vague. Et en fait, la maison des syndicats était exactement, pile poil, sur le tracé du boulevard Clémenceau, sur votre droite, au niveau de la Gentilhommière, la Gentillot. À la Gentillot, c'était l'arrière de la maison des syndicats. Et là où on se dirige, c'est tout simplement l'avant, c'est-à-dire là où se massent les ouvriers avant les manifs de l'époque. On va rejoindre, à cet endroit exact, un troisième intervenant, c'est Erwan Lebot, qui est illustrateur, qui est connu à Brest pour avoir édité un bouquin qui s'appelle « Arrêt sur Brest ». C'est des croquis sur sa ville, vue des stations de bus. Et tout simplement, Erwan nous a préparé une image en direct à la craie qui représente l'entrée de la maison des syndicats. Alors, je vais vous demander de descendre les marches pour voir. Donc, massez-vous par la droite, enfin sur votre gauche. Continuez à avancer pour pouvoir voir le dessin. Alors, voilà, c'est Erwan. Alors Erwan, tu vas venir là, tu vas nous dire deux mots sur ce qu'on voit.
Bonjour, donc alors là le dessin qui est représenté sur le trottoir, donc comme l'a dit Lag, c'est la maison des syndicats, donc qui était une sorte de... Donc qui était une baraque, hein, comme on le connaît bien ici à Brest à la reconstruction, avec une petite cour intérieure, donc un bâtiment symétrique. Et alors ce qui est étonnant, c'est que par rapport à aujourd'hui, donc l'immeuble en face de nous là, n'était pas encore construit. Ce qui fait qu'on avait une vue sur l'église Saint-Martin, qui semblait vraiment beaucoup plus proche, hein, même c'est avec un effet de perspective, on a l'impression que l'église est à deux pas. Et on a également une vue dégagée sur l'hôpital Morvan. Donc voilà, que là on... Donc voilà la vue générale en 1950.
Donc, nous sommes tous devant l'entrée, là, tous, comme il y a 60 ans. 62 ans exactement. Alors là, je voudrais redonner la parole à Josie ou, voilà, pour nous dire pourquoi on est si nombreux ce jour-là de 17 avril 1950.
À Brest, les actions sont nombreuses depuis le début de l'année. Les prix des denrées augmentent, les salaires sont maigres, les travailleurs travaillent beaucoup. Ceux du bâtiment en particulier, puisque tout est à reconstruire. D'autant que, je vous ai dit, le bateau de 1947 a tout détruit une deuxième fois. Dans le bâtiment, ils sont entre 5000 et 6000 ouvriers, c'est-à-dire à peu près comme dans l'arsenal. Ils réclament 10 francs horaires d'augmentation. Pour vous rendre compte, le pain coûtait 35 francs. C'est Pierre Mazet qui est le responsable de la CGT du bâtiment. La grève est déclenchée le 17 mars et elle est quasiment générale. Il y a l'unité syndicale, la solidarité ouvrière, le soutien de la population, et ça va lui permettre de durer. Mais c'est dur. Ernest a pu, avec émotion, vous en dire quelque chose tout à l'heure. Le 3 avril, les dockers sont en grève depuis 15 jours pour des augmentations de salaire aussi. Et ils se heurtent, le 3 avril, ils se heurtent à un barrage policier énorme alors qu'ils se dirigent aussi vers la sous-préfecture, tout comme toujours, pour apporter avec une délégation pour demander donc cette augmentation. Ils se heurtent à un barrage de police et qui leur lance des gaz lacrymogènes. C'est la première fois à Brest. C'est la panique, la colère. Les dockers s'emparent de tonneaux et ils les balancent dans la mer. Résultat, 6 d'entre eux sont arrêtés. Ils jouent un rôle par la suite. Certaines entreprises du bâtiment ont accepté l'augmentation de salaire. Et les travailleurs ont repris le travail. C'est le cas de celle d'Edouard Mazet. Mais les autres résistent. Et ils ont décidé d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, c'est le mot d'ordre. La solidarité marche à fond et la maison des syndicats, elle croule sous les dons. C'est vrai. Le conseil municipal lui-même a voté une subvention de bons de lait pour les enfants des grévistes. Mais les grévistes ne voient rien arriver. Les fonds sont bloqués. Alors, c'est le 14 avril. C'est un vendredi. Les femmes des grévistes, avec à leur tête la députée communiste Marie Lambert, se rendent à la mairie qui était là-bas plus haut et qui était en baraque, se rendent à la mairie pour demander des comptes. Elles sont reçues par un barrage de police et elles sont molestées, brutalisées, insultées. Le 15, les hommes, les femmes sont dans la rue, vont chercher Prévosto, Monsieur Prévosto, qui est le secrétaire de la chambre patronale. C'est à la chambre patronale qu'on résiste pour empêcher les augmentations. Ils vont chercher le secrétaire et ils l'amènent à la maison des syndicats. De force. C'est un peu humiliant. Mais il le dira lui-même, il n'a pas été molesté physiquement. On le reconduit un peu plus tard, après lui avoir demandé des explications. Le lendemain à l'aube, c'est le dimanche 16 avril, des policiers se présentent chez les deux responsables CGT, syndiqués CGT, Buquet et Cadiou, Alain Buquet et Charles Cadiou. Ils sont arrêtés, emprisonnés. La députée communiste Marie Lambert est arrêtée également à sa descente du train à Landerneau. Évidemment, le 16, le dimanche après-midi, le téléphone arabe fonctionne. Il n'y avait pas de portable à cette époque. Il faut aussi que vous rappelez, amis brestois, comment il fallait se rassembler, comment il fallait venir à tel point, à telle heure. On prenait son vélo, on prenait ses jambes et puis on allait prévenir les uns les autres. Et ils se retrouvent donc en réunion à décider d'une grande manifestation de protestation pour le lendemain. Et donc, je peux vous dire que le dimanche après-midi, je m'en souviens, moi, devant la baraque du Bougain où nous habitions, mon père, qui était jeune alors, et notre voisin avaient pris des couvercles de lessiveuse et ils jouaient au CRS. Et nous, les gamins assis sur les marches, on riait bien de voir ces jeux d'adultes. Et mon père disait, ça m'étonnerait que ça barde pas demain. Sachant ce qui était arrivé, une énorme provocation. Et donc, en effet, le lendemain, lundi 17 avril, c'était un temps gris. Il est parti rapidement au travail, à l'arsenal, où, sur ses deux jambes, presque en courant. Il ne savait pas que ce serait la dernière fois. Et quand il est arrivé là-bas, on a dit, on débraye cet après-midi, rendez-vous 14h. La maison des syndicats. Et à 14 heures, ils étaient bien 2000, 3000, les chiffres, c'est toujours pareil, c'est difficile à préciser, qui s'étaient réunis ici avec donc deux mots d'ordre, le soutien toujours aux grévistes du bâtiment et la libération immédiate des deux responsables syndicaux et de la députée communiste qu'on avait arrêtée malgré son immunité parlementaire. Ils allaient fort, hein? Et donc, ils partent en cortège à partir de la maison des syndicats vers la sous-préfecture. Et là, je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent prendre le relais.
Oui, on va le faire d'ailleurs tous ensemble. Mais juste un point pour dire la situation. Ernest, tu m'avais dit, tu avais un enfant à l'époque, hein, c'est ça. Et tu m'avais explique-nous comment c'était... de vivre ces temps de grève, parce que c'était plus d'un mois de grève.
Oui, bien sûr, on avait, comme je vous ai dit tout à l'heure, on pouvait pas nourrir nos enfants. Ça faisait bientôt un mois qu'on était en grève. Et quand on arrivait, on était tous groupés sur la place de Liberté, on était tous dans le même champ, dans le même cas. Puis, et on a quand même réussi à se rassembler, puis, et on est arrivé devant ce barrage de garde mobile. Je me rappelle toujours, j'étais à 20 mètres de mon frère, puis d'un coup on a entendu des coups de feu, et j'ai vu mon frère passer porté par deux camarades, il avait un gros trou dans le front, et
on va le voir là, tout à l'heure.
Oui. Et puis et voilà. Et ils l'ont amené, je pense, à la maison des syndicats. C'était une journée terrible.
On va y aller, mais avant le tir, il s'est passé plusieurs événements et on va essayer de les retrouver. Juste pour vous dire, on a distribué à certains, je ne sais pas si on avait assez de cartes, mais une carte qui est en fait vous permet de suivre peut-être en réalité augmentée la balade qu'on fait aujourd'hui. Elle représente une photo aérienne de 1950. Ça veut dire exactement l'état des bâtiments, etc., tels qu'ils étaient à ce moment-là. Et par-dessus, en surimpression, les traits blancs, c'est le plan superposé d'aujourd'hui. Donc vous reverrez, vous retrouverez la place de la Liberté. Vous voyez la photo en dessous qui montre les baraques, comme elles étaient. Vous verrez, j'ai cerclé de rouge la maison du syndicat, où elle est placée, par rapport à l'hôpital, etc. Et donc vous allez pouvoir suivre, en suivant la manif, un peu ce qui se passait. On va tout de suite, donc là, les ouvriers sont tous là, très en colère, bien décidés. L'idée, c'est d'aller réclamer la libération de la députée communiste. Et pour ça, on doit se rendre à la sous-préfecture qui, à l'époque, était dans la rue de Glasgow. Donc, l'idée, c'est ce qui se pratiquait habituellement, c'est de rejoindre la rue Jean Jaurès, de la montée, et de tourner un peu plus bas que Saint-Martin pour rejoindre la rue de Glasgow. Donc les ouvriers s'en vont, et on va faire pareil. On va donc retourner en arrière. Voilà. On traversera au début du cinéma là-bas. Donc là, ça va être pour moi l'occasion, pendant qu'on se balade, de vous présenter le quatrième invité. J'aimerais bien qu'il s'approche. Alors, notre quatrième invité, tout simplement, c'est Chris. Chris qui est maintenant célèbre à Brest, en tout cas, et puis dans toute la France, parce qu'il a tout simplement... Il est l'auteur d'un album qui s'appelle « Un homme est mort », un album de bande dessinée qui est dessiné par Davodo, Chris étant le scénariste. Et cet album raconte complètement cette histoire. En fait, c'est une histoire dans l'histoire. Et je vais te laisser le loisir, justement, de l'expliquer.
Oui, bonjour à tous. Alors, je vais vous parler à reculons. J'espère qu'on me préviendra si un tramway arrive derrière nous. Effectivement, Un homme est mort raconte une histoire dans l'histoire de cette journée du 17 avril 1950, puisqu'il raconte l'histoire du tournage d'un film réalisé par René Vautier pendant ses journées de grève et qui porte ce nom-là, justement, Un homme est mort. Alors, à l'origine, René Vautier était venu à l'invitation de la CGT pour tourner un film sur les grèves, mais avant cette manifestation du 17 avril. Et il a débarqué à Brest juste le lendemain de la fusillade. Et le projet initial qui était de tourner un film pendant tout le temps que durait encore la grève s'est transformé très rapidement en un film sur Édouard Mazé, où René Vautier a filmé notamment principalement les obsèques, toutes les journées de préparation, la manifestation énorme qui a suivi la mort d'Édouard Mazé, puisque 80 000 personnes ont défilé en son honneur le 19 avril 1950. À l'époque, on estime que la population brestoise était autour de 120 000 habitants. Donc vous imaginez ce que ça fait, hein, 80 000 personnes. Si on ramène ça à l'échelle d'aujourd'hui, ça serait une manifestation de 100 à 120 000 personnes. Vous imaginez ce que ça peut donner dans une ville comme Brest. Et cette dernière, ultime manifestation a sans doute assagi définitivement les choses, mais surtout le film de René Vautier a été tourné très rapidement en 48 heures, puis projeté sur tous les piquets de grève. Partout, il faut imaginer que tout autour de nous, c'était une ville fantôme, hein, en pleine construction, mais ce n'était que de vastes chantiers. Et le film était projeté sur ces chantiers-là, avec les moyens du bord. et en échange, l'entrée était payante en nature, principalement en nourriture pour les grévistes. Et ce film-là, qui évidemment va avoir un écho aussi, va servir à populariser la grève un peu partout et nationalement, va finalement aussi permettre aux grévistes de l'employer, de remporter et d'obtenir satisfaction à leurs revendications. Alors voilà, on est parti sur l'histoire de ce film-là, et puis à l'arrivée, on devait rester 6 mois sur le livre, on est resté 4 ans. Parce que plus ça allait, plus on découvrait des choses, plus on se rendait compte à quel point cette histoire était aussi faite, pas seulement d'un cadavre dans la rue, mais de cadavres dans les placards. Et il y a eu 4 ans de recherche, aidé par notamment Pierre Le Goïc, qui était un historien brestois qui est décédé en octobre dernier, malheureusement. C'était le grand historien de la reconstruction à Brest. Si vous avez l'occasion un jour de lire son livre « Anti-mémoire d'une ville, la reconstruction à Brest », je vous engage à le faire. Et puis évidemment, aux côtés de René Vautier, aux côtés de Pierre Causien, aux côtés d'Ernest Mazet, etc. Il y a eu tout un travail d'accompagnement, de réalisation artistique avec des témoins de l'époque et qui a donné ce livre « Un homme est mort » qui a permis sans doute de réveiller oui, aussi une mémoire autour de ces événements-là. Sachant qu'on n'est pas exempt d'erreur non plus, parce que même en restant 4 ans de recherche, depuis 2006, on a découvert de nouvelles choses, et notamment dans des archives qui étaient inaccessibles jusqu'en 2010, puisque frappées du sceau de non-communicabilité de 60 ans. Et c'est dans ces archives-là où toutes les preuves de la fusillade du 17 avril 50, on a pu les obtenir là. Parce qu'il faut savoir que quand même, officiellement, ce n'est toujours pas les forces de l'ordre qui ont tiré le 17 avril 1950, mais un règlement de compte entre communistes, éventuellement, ou alors on ne sait pas trop d'où ça vient. Voilà.
Merci Chris. Alors voilà, la manif est bien engagée là, on est très nombreux, on est très en colère. Il faut vraiment obtenir cette libération et puis le déblocage sur les salaires. Et là, on arrive à ce point-là à peu près en réalité un poil plus au-dessus, parce que comme je le disais, le boulevard Clémenceau n'existait pas. Il y avait ici une petite chicane et un rond-point. Et à ce rond-point, les ouvriers sidérés s'aperçoivent qu'il y a un énorme barrage de forces de l'ordre. On va approcher vers là. Alors, à ce point-là, donc vous avez les baraques. Michel, tu peux scotcher la banderole là. On va tout simplement se servir, évidemment, puisque Chris est là, on va se servir des cases de sa bande dessinée, parce qu'il a déjà fait un travail de recherche avec Davodo, un travail important pour retrouver exactement les images de l'époque. Et alors on s'est proposé de les agrandir, donc là si on laisse un peu le temps, on va pouvoir l'afficher. Pendant que Erwan dessine, lui, la cité commerciale, on voit au fond l'hôpital Morvan, parce que les bâtiments, encore une fois, n'existent pas, donc on voit l'hôpital. Devant, il y a les premières baraques, c'est Radio Ouest, un magasin de chaussures qui était à peu près là. Donc là, on va étaler ce que les ouvriers ont vu. Vas-y, Michel. Ce que les ouvriers ont vu, il y a 62 ans, en arrivant au point où vous êtes arrivé. Alors, on va étaler. Voilà. Donc là, c'est une case tirée donc, de l'album « Un homme est mort » de Chris et Davodo. Et c'est exactement ça. Vous voyez les baraques sur la gauche, sur la droite. Là, c'est la cité commerciale. Et en face d'eux, un énorme barrage. C'est un barrage étonnant parce que jusqu'à là, pourtant il y en a eu des manifs, eh bien un barrage de cette importance, il n'en avait pas vu. Alors je cherche des yeux Josie ou Ernest qui pourraient appuyer ou infirmer mes dires. Non, ils ne sont pas là, bah, s'ils peuvent venir. En tout cas, ils sont réellement surpris. On se dit qu'il se passe quelque chose. Pourquoi mettre tout d'un coup autant de policiers pour une manif qui finalement n'est qu'une manif de plus? Il faut savoir que ce barrage qui est énorme, en fait, il y avait d'autres... Voilà, oui, Ernest. Oui, donc tu confirmes que vous étiez surpris.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
Voilà. Ben oui. Donc, j'ai pu le dire. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'était qu'un des barrages. Ce que les ouvriers ne savaient pas, c'est qu'il y avait plusieurs autres groupes
qui étaient cachés et disséminés dans différents autres points de la ville. Je crois qu'on peut, quand on voit le plan stratégique des policiers de l'époque, on peut se dire qu'il y avait dans l'idée de la volonté de vraiment casser et frapper fort. Peut-être pas tuer, mais en tout cas casser et frapper très fort. Ce sont des gendarmes. Alors, la question est de savoir. Alors, si Josie était là, ça serait... Voilà. Il y a une grande question, c'est de savoir si ce sont des gendarmes mobiles ou des CRS. Alors, je crois que Pierre Causien...
Moi, j'ai vu affaire à des CRS ici dans l'enceinte là de... Mais j'ai pas vu de policiers, de gardes mobiles. Les gardes mobiles étaient simplement rue Carabécane.
Oui, donc on peut. Mon père disait toujours, partout où on racontait cette histoire, il barrait CRS et il mettait garde mobile. Mais peut-être aussi qu'il a pu se tromper. Ce qui est certain, c'est que ceux de la fusillade étaient des gardes mobiles. Voilà. Mais il pouvait y avoir des CRS. Ici, il va se présenter peut-être lui-même. Ce monsieur y était aussi.
J'étais ouvrier du bâtiment. À ce moment-là, j'avais 19 ans et je participais à la manifestation. Maintenant, faire des comparaisons entre gardes mobiles, les flics et compagnie, je peux vous certifier une chose, c'est qu'ils avaient l'uniforme de gendarme. Ils n'avaient pas les capotes, c'était des vestes noires et des pantalons bleus. Hein, il y a un homme non, qui s'appelle garde mobile ou autre chose, j'en ai rien à foutre. Hein. Parce que quand il y a eu quand on est arrivé par la rue Carabécane, on a vu des dizaines et des dizaines de flics arriver, casqués et armés, mais pas avec des matraques, hein, avec des fusils. Il y en avait plein la rue. Là, ça a cogné. Et à un moment donné, on était au corps à corps avec un autre groupe de flics, encore de gendarmes. Et là, j'en ai vu un, on était au corps à corps pratiquement. Il lève son fusil comme une masse devant moi. Moi, je suis naïf encore à ce moment-là. Je me dis, il va quand même pas l'abattre. Non, il s'est peut-être gêné. Il me l'a fait en pleine figure. Moi, j'étais quitte pour une espèce de fracture du crâne et compagnie, quoi. Et c'est comme j'étais KO debout. Je voyais presque plus clair d'un œil. Je suis resté debout quand même. Hein. Je ne sais pas comment. Eh ben, je ne voyais plus rien, donc j'ai fait demi-tour. Et j'avais à peine fait quelques mètres que j'ai entendu la fusillade, quoi. Là, c'était devant la plaque de la rue Noble. Et j'avais vu entre-temps, j'ai eu le temps de voir avant de ramasser mon coup de crosse, M. Causien, il avait pris un fusil, un fusil des gendarmes, et il était en train de casser sur le bord du trottoir. Ça, je me rappelle très bien aussi.
Donc, ce que mon père racontait à ce sujet, c'était vrai.
Oui, donc il faut savoir qu'évidemment, le premier choc a lieu ici, hein, donc là où on est. Donc, l'énorme barrage de flics, on va dire flics, comme ça va être plus simple. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il semble, parce que là, c'est là que la mémoire peut... Enfin, les différentes mémoires, c'est un peu compliqué, mais... D'après tout ce qu'on peut recouper, il semble qu'au début, les manifestants ont le pas sur les flics. Au début, ici, le barrage va se faire démanteler par les manifestants. Parce qu'il faut dire qu'à cette époque aussi, mais comme sans doute maintenant, les manifestants n'étaient pas non plus prêts à se laisser encrister comme ça. Hein. Tu me confirmes, Josie ?
Oui, mon père à ce sujet disait les manifestations à cette époque, il y en avait très souvent, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, c'était quasi toutes les semaines, il y en avait une, et elles étaient quand même bon enfant. Mon père disait on y allait, et puis tiens, t'es là, bonjour, ça va, comment va la famille, c'était fraternel, celle du 17 avril également. Quand ils sont partis, c'était comme ça. Il y avait, vous savez, la confiance qu'on était là et qu'on avait raison d'être là.
donc une confiance tranquille dans le motif de la manifestation, dans sa justice. Il fallait tout simplement du temps pour que les autres en face finissent par l'admettre. Mon père disait comme ça, pour cette manif-là comme pour les autres.
Alors voilà, ici donc grand choc, ça cogne de partout, aussi bien les manifestants qui se font matraquer ou à coups de crosse, mais aussi dans certains cas des manifestants qui arrivent à choper des fois un flic dans un coin et bon ben voilà. Et il y a les boîtes de conserve qui volent, hein. Il y a des marchands à l'étalage qui sont juste de l'autre côté, du côté des enfants de dialogue. Et là, ils ont des boîtes de conserve et évidemment, elles vont servir de projectiles par les manifestants, ce qui est de bonne guerre. Et donc là, les flics, en tout cas d'après les rapports qu'on a lus, ils perdent un peu pied. Et donc, on va suivre leur mouvement, les manifestants les pourchassent en se disant, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, au lieu de prendre la rue Jean Jaurès, on va prendre la rue de Glasgow pour aller directement à la sous-préfecture. Et donc, on va suivre, on va descendre l'escalier et on va aller jusqu'à l'embouchure de la rue de Glasgow qui est là-bas. Alors, j'en profite là aussi pour saluer, là en face, les casse-papiers qui mènent une lutte pour les demandeurs d'asile. Et on leur laissera tout à l'heure, s'ils le souhaitent, la parole, peut-être à la fin. Voilà. Alors là, on se dirige en fait à travers la cité commerciale, tout simplement. Hein. Donc vous vous souvenez, c'est plein de baraques, c'est des commerçants. Que des commerçants, et dans les petites ruelles entre les baraques, eh bien ça matraque, ça cogne dur. Et d'ailleurs, plus tard, quelques semaines plus tard, les commerçants vont être très en colère parce qu'ils considèrent qu'il y a eu des dégâts et ils vont demander réparation. Ils n'en auront pas. Donc ce qu'il faut savoir aussi pour retrouver l'ambiance de cette époque de 1950, c'est que la rue de Glasgow n'arrivait pas exactement là. En fait, elle arrivait au milieu de la mairie qui n'existait pas à l'époque. Et donc la rue de Glasgow, elle est tout droit et débouchée en haut, comme au milieu de la mairie. Il y avait un petit bar à droite dans la rue de Glasgow.
Et puis, puisqu'on parle de mairie, on se souvient à nouveau de l'histoire avec Prévosto. Et Ernest est un peu timide, mais il vient de me dire que sa femme, son épouse, sa jeune épouse d'alors, était parmi les femmes qui sont montées à la mairie demander que ces bons de lait soient enfin donnés aux enfants des grévistes. Voilà, sa femme est décédée, malheureusement elle ne peut pas porter un témoignage direct, mais elle était là aussi.
Merci. Alors, il faut savoir que le trajet de la manif, là, qu'on peut se reconstituer grâce aux mémoires partagées des uns et des autres, il a surtout été rendu possible, parce que c'est vieux, hein, il y a 62 ans hein, quand même, mais il a été aussi possible parce qu'il y a deux ans, Chris, qui est par là, a pu récupérer avec Pierre Causien, vous avez pu avoir accès à un plan formidable, tu peux expliquer ?
Oui, alors là, c'est pas avec Pierre, mais c'est vrai que donc ces fameuses archives inaccessibles, finalement, nous ont été rendues en petite partie accessibles par l'éternel Pierre Causien, donc, qui avait, après moult batailles administratives, réussi à obtenir pour lui-même, et à condition de ne les communiquer à personne, le droit de regarder ses archives. Alors, c'est ce qu'il est allé faire. Évidemment, il s'est empressé d'en recopier le plus possible à la main, et de nous les fournir sous le manteau dès que possible, ce qui nous a servi, et notamment à refaire les fameuses pages de la fusillade. Et dans ces archives inaccessibles, donc je vous rappelle encore qu'officiellement, ce n'était pas les forces de l'ordre qui avaient tiré, on avait notamment les 8 rapports émanant de tous les responsables d'escadrons de gendarmerie. Et tous ces responsables, et notamment le capitaine Kerouaz, qui est celui qui commandait le peloton de gendarmerie qui a tiré, expliquait par le menu et le détail comment s'étaient passées les choses et reconnaissaient tout à fait qu'ils avaient tiré. Alors, en état de légitime défense, selon eux, mais ces pièces-là sont extrêmement importante et intéressante parce que on a aussi la personne qui a donné l'ordre de tirer, qui s'appelait le commissaire Le Gohan, et donc Kerouaz n'hésite pas à charger réellement la responsabilité. Voilà. Mais nous avons surtout aussi dans ces archives-là un plan du centre-ville de Brest, comme une carte routière, établie 2 semaines après les faits, le 28 avril 1950, et qui est vraiment la carte du champ de bataille, il n'y a pas de chose à dire. Puisque, on va par là-bas, puisqu'il indique tous les mouvements à la fois des manifestants et des différents escadrons des forces de l'ordre, avec des indications très précises comme 16h11, contre-attaque du sous-groupement numéro 3, 16h24, attaque des manifestants, etc. 16h27, contre-attaque de l'escadron numéro 4. Donc c'est un plan qui nous a beaucoup servi pour cette journée aujourd'hui, et que j'aurais bien aimé avoir, moi, à l'époque, en 2006. Et enfin, nous avons aussi le détail des forces de l'ordre qui étaient présentes ce jour-là. Donc on estime aujourd'hui à peu près à 1200 le nombre de policiers, de flics, comme dit Lag, qui étaient présents ce jour-là. Je vous rappelle qu'on estime 3 à 4 000 manifestants à peu près, donc vous faites le ratio, ça fait une force de l'ordre pour 2 à 3 manifestants à peu près. Donc il n'y a pas beaucoup de manifestations aujourd'hui encore qui ont ce ratio-là, et évidemment ça risquait fort d'amener beaucoup de violence. Et enfin, on a aussi le bilan des victimes du côté des forces de l'ordre, puisqu'on a quand même droit de les citer. Il y avait exactement 42 blessés chez les forces de l'ordre, le plus gravement d'entre eux ayant été victime d'une fracture du bras. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu beaucoup de chance, beaucoup avaient des hématomes, des jets de pavés, etc. Mais en tout cas, puisque cette affaire a souvent été entachée d'énormément de rumeurs, puisque dès lors qu'on cache les archives, on laisse la voie libre à toutes les rumeurs, il n'y a pas eu de gendarmes tués ce jour-là, puisque on l'a aussi lu quand un homme est mort est sorti, des réactions disant que, mais non, il y avait eu également un gendarme tué, mais que le gouvernement avait caché son existence, etc. et tout ça. Le gouvernement aurait été loin de se priver de se cacher son existence, puisque évidemment, si on veut être grivois, un mort à zéro, c'est pas la même chose qu'un mort partout. Ça, c'est évident. En réalité, on a démonté cette rumeur-là, qui venait sans doute d'un gendarme qui n'était pas rentré à la caserne 48 heures après, tout bêtement parce que poursuivi par les manifestants, il s'était caché chez un habitant, qu'il avait perdu son fusil, et il a été porté disparu pendant un certain nombre d'heures. Et ça suffit à l'époque pour que la rumeur se répande, pour dire qu'il y a un gendarme qui a disparu, donc il y a un gendarme qui est mort. On a même lu qu'il avait été jeté dans un puits. Voilà, ça c'est très breton, voilà la légende pour les faire disparaître, on jette dans les puits. Et puis ce pauvre gendarme a définitivement disparu de la circulation, donc c'est pas vrai du tout. Voilà, il y a eu 42 blessés chez les forces de l'ordre, une vingtaine chez les grévistes. Je dis une vingtaine, je peux pas être plus précis, puisque le bilan des forces de l'ordre détaille le nom et les blessures de façon extrêmement précise pour chacun des gendarmes. Et le bilan du côté des manifestants se résout à 2 lignes, 20 blessés, 1 mort. Voilà, c'est un tableau qui est aux archives départementales du Finistère à Brest. Donc ces archives, j'espère qu'on arrivera à les éditer un jour, pas du tout dans un souci de vengeance ou autre, mais dans un souci de clarté et de montrer que quand même les archives doivent rester accessible à tout citoyen qui en ferait la demande, puisqu'il y avait un projet de loi sous M. Sarkozy qui voulait porter ce délai de non-communicabilité pour atteinte à la sûreté de l'État à 70 ans ou à la mort de tous les fonctionnaires incriminés. Donc autant vous dire que là, ça serait la porte ouverte à toutes les dérives. Voilà.
Et le lendemain de la fusillade, dans le journal, le télégramme, entre parenthèses, il nous en sortit comme titre « Un ouvrier a été tué par une balle perdue, on ne sait pas qui a été tué, on ne sait pas qui a tiré.
Ouais. » Mais j'ai vu que d'ailleurs ce bruit qui a été créé s'est retrouvé il y a encore quelques années après, en réaction après un article de Gaby Paul sur le sujet. Il y avait encore un lecteur qui disait qu'il incriminait cette thèse.
Et mon père, pendant qu'il était à l'hôpital, il délirait. Et malgré tout, il y avait deux commissaire de police qui était là, et deux inspecteurs, pardon, et qui voulaient absolument lui faire dire que les balles étaient forcément venues de derrière, de l'hôpital Morvan. Et c'est une religieuse, mon père lui en était reconnaissante, qui a débarrassé les malades de la présence des inspecteurs qui essayaient d'extorquer ce mensonge.
Alors là, nous sommes à un deuxième point. Ici, ce qui se passe, c'est que les ouvriers donc, ont fait refluer le bataillon, le groupe qui était présent là-bas. Ils se replient en désordre, visiblement, et ils montent la rue de Glasgow. Les ouvriers s'y engouffrent aussi, dans un premier temps. Mais il se trouve qu'arrivé au rond-point Kerabekam-Glasgow, ils rejoignent deux autres groupes rejoignent le premier, donc ils sont trois fois plus nombreux tout d'un coup. Et ils sont en haut, les ouvriers montent. Et là, cette fois-ci, c'est plus seulement du lacrymogène, mais il y aura de la grenade offensive aussi. Donc un bruit complètement sidérant. Là encore, les ouvriers sont surpris. Il ne faut pas oublier qu'on est au sortir de la guerre, que beaucoup d'entre eux, et on va le voir parmi les blessés, parmi le mort, beaucoup d'entre eux sont des anciens résistants, sont des gens qui ont connu la prison pour faire de résistance, etc. Et c'est donc des gendarmes, des CRS ou des gardes mobiles français qui tirent à la grenade offensive sur des ouvriers français qui réclamaient du pain. Donc là, il y a carrément une descente. Ça veut dire que les flics, d'après les rapports que j'ai pu lire, vont descendre la rue de Glasgow et poursuivre les manifestants. Là, cette fois-ci, c'est ce qu'ils appellent la contre-attaque que Chris parlait tout à l'heure. Contre-attaque 16h05, c'est marqué sur le plan. Et donc là, on imagine ce que ça peut être une contre-attaque. C'est le rouleau compresseur, voilà, qui descend. Les ouvriers, bien sûr, refluent. Il y en a plusieurs qui sont pris dans les coins. Il y a notamment un autre député communiste, Signor, Alain Signor, qui va se faire choper, qui était déjà, lui, malade, résistant, etc., et malade, très malade. Il va se faire choper par plusieurs flics qui vont lui donner des coups de crosse dans les côtes, etc., et l'arrêter aussi. Donc ici, c'est, on va dire clairement, c'est la débandade ici. Tout le monde part dans tous les sens, il y a le lacrymo partout. En plus, le gaz ne se dissipe pas ce jour-là, alors je ne sais pas, lié à l'humidité, etc. Donc c'est irrespirable. Et donc il y a un petit groupe, donc là oui, je voulais présenter aussi cette image, donc il montre, c'est une des 10 ou 15 images de l'album de Chris et Davodo qui montre justement ces scènes où l'on voit à la fois, effectivement, dans les deux sens, un garde mobile qui tape sur un manifestant, mais aussi des manifestants qui se défendent. Hein. C'était la réalité. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, dans la débandade générale, ça part dans tous les sens, il y a un groupe d'environ combien de personnes, Ernest? Vous étiez combien ici?
Oh, à peu près 2000 quand même.
Oui, 2000 sur toute la manif, mais il y a un groupe qui va partir vers là, et avec ton frère.
Oui, là, on était une cinquantaine à peu près.
Voilà, un groupe d'une 50-100 personnes qui se regroupe et qui se dit, l'objectif, c'est, je le rappelle, la sous-préfecture plus haut. On va passer, parce que là, c'est impraticable, on va passer par la rue Kerabekam. Donc, ils vont passer par là. Alors, on va tout simplement suivre le mouvement. Vous constaterez que cette manif se déroule sur un tout petit territoire, un vrai petit théâtre de poche qu'on peut parcourir aisément. Alors en s'engageant dans cette rue qui n'avait pas encore de nom, qui maintenant s'appelle la rue Auguste Morvan, les ouvriers en fait passent devant le magasin Chupin. Voilà, le maire Alfred Chupin, qui avait son magasin ici. Et Ernest connaissait bien ce magasin Chupin. Tu peux nous en dire quelques mots?
Le quoi?
Le magasin Chupin, enfin l'atelier Chupin, qui était juste à côté.
C'était Chupin, Alfred Chupin, maire de Brest, et qui le jour de cette manifestation était absent de Brest, qu'il a prétendu.
Oui, et tu c'est un magasin de plomberie, et toi, tu travaillais comme plombier.
Oui, mais là c'était le magasin de vente. Moi, j'étais dans son entreprise, mais qui n'était pas ici, qui était dans une autre.
Donc là, nous avons le... Alors oui, on entend moins bien avec le bus, hein, nous sommes désolés. On va monter rejoindre Erwan. Une petite anecdote pour le magasin Supin. Il se trouve que le bâtiment existe toujours. Il est tout simplement enserré à l'intérieur de cet ensemble immobilier. Et en fait, il suffit d'aller à Brest Information Jeunesse, d'aller vers le fond, et vous remarquerez qu'il y a des puits de lumière à un moment donné. Et ces puits de lumière, en fait, étaient déjà les puits de lumière du magasin Supin. Donc, son magasin existe toujours. Et c'est Brest Information Jeunesse. Donc, vous pourrez y faire un tour quand ça sera ouvert. Voilà. Alors, en montant cette rue, il se trouve que les ouvriers en colère sont tombés sur un camion de gendarmerie qui était là. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, Ernest ?
On y a mis le feu.
Voilà. Donc là, les ouvriers ont carrément... Le camion était isolé, ils ont réussi à le choper. Ils l'ont renversé. Évidemment, le conducteur et son passager sont enfuis. Hein, c'est ça, hein ? Et les ouvriers y ont mis le feu. Donc c'est un épisode qui...
Et quelque chose d'important, c'est que les pompiers qui ont été aussitôt appelés se sont mis du côté des manifestants.
Donc une des anecdotes, donc un camion en feu ici. Les ouvriers sont toujours en colère et ils vont arriver devant l'entrée de l'hôpital Morvan. Où l'on retrouve Erwan qui nous dessine ce qu'on voyait à l'époque. Alors là, le dessin, il est dans ce sens-là, donc va falloir le lire à l'envers. J'attends que vous soyez... En fait, l'hôpital Morvan, l'entrée était exactement celle-là. Ça n'a pas changé. La forme caractéristique en demi-cercle du bâtiment principal, enfin en tout cas de la grande entrée, les murs extérieurs, tout cela était déjà présent en 1950. Ils étaient même présents avant-guerre. C'est un bâtiment, bizarrement, qui lui n'a pas été touché par les bombardements. Donc l'hôpital est là, les ouvriers arrivent ici. On le voit encore, si vous vous retournez, vous voyez le clocher de Saint-Martin. Évidemment, les grands bâtiments n'existaient pas, donc on voyait mieux encore l'église. Il y a ici un grand bâtiment, c'était pour ceux qui sont les plus anciens, dont je suis, c'était le cinéma Vox, hein, qui était à peu près là. Et là, vous voyez l'entrée de la rue. À votre droite, ici, tous ces bâtiments n'existaient pas. C'était un énorme terrain vague, des ruines, etc. Il y avait juste un peu plus loin, au milieu de la rue à peu près, quelques baraques, et dont une était une boîte de nuit, un dancing qui s'appelait l'Ambiance. Donc voilà, pour la couleur locale. Juste derrière, c'était un grossiste en fruits et légumes. Mais pour le reste, c'était juste un énorme terrain vague. Les ouvriers arrivent ici et décident... de prendre la rue Kerabekam pour aller là-bas et contourner comme ça les forces de l'ordre et arriver enfin, je vous rappelle que c'est quand même l'objectif, à la sous-préfecture, dans l'idée simplement, non pas de brûler, de casser, mais de demander la libération, je veux dire, du député, des deux députés, puisque maintenant Alain Signor était aussi arrêté. Alors, on va tout simplement s'engager dans la rue, vous allez voir, la balade va bientôt prendre fin et ça va se passer quelques mètres plus haut. On va le faire ensemble.
Celui qui est à côté de toi.
Oui, c'est vrai.
Celui qui est à côté de toi.
Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Je sais pas.
je ne sais pas. Ça se trouve, je le connais, mais je ne sais pas qui c'est. Alors, j'ai passé devant.
Mais ça a changé comme ça. Là, là, ça,
alors là, pour avoir une idée, hein, donc on a sur votre gauche le mur qui est exactement le même. Il n'a pas bougé, il est là depuis 62 ans, même bien avant, depuis avant-guerre. Par contre, à votre droite, nous sommes sur du terrain vague. Ça veut dire qu'on voit les baraques de la cité commerciale. Hein. Alors peut-être que le mieux sera de bloquer provisoirement un peu la... Enfin, on va pas pouvoir le faire longtemps. Hein. Ça va pas être simple, ça. Mais comme vous êtes nombreux... Ce qu'on va faire, on va traverser et plutôt venir de l'autre côté, c'est mieux. Alors ce qui se passe ici, c'est qu'en montant la rue, à un moment donné, les ouvriers s'aperçoivent que dans leur dos... C'est-à-dire, au niveau, vous voyez, c'est pas loin, au niveau de l'entrée de l'hôpital, se forme un barrage policier. Et ce barrage est un peu différent des autres. Alors, je cherche Josie, Ernest. Je ne sais pas où ils sont. Josie. Voilà. Et Ernest. Donc, là, va se former un énième barrage. Et ce barrage... à une attitude différente des autres. Vous pouvez nous expliquer ?
Le barrage ici, ben, ça va être la fin. Ils sont, comme Ernest l'a confirmé, assez peu nombreux à être arrivés jusqu'ici. Une centaine, enfin là encore, les chiffres sont imprécis. Et... c'est un peu dur, ça. Et ils entendent, enfin, comme mon père raconte, parce que c'est ce que je suis obligée de raconter comme lui. Il a entendu, attention, ils vont tirer. Et il n'a pas eu le temps de faire attention. Il était déjà par terre avec une balle dans la jambe, et quelqu'un est venu à côté de lui, et pendant qu'il attendait les soins, un camarade lui a dit « Un homme est mort. Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort qui n'avait d'autres routes que celles où l'on hait les fusils. Un homme est mort qui continue la lutte malgré la mort, malgré l'oubli. Car tout ce qu'il voulait, nous le voulions aussi. Nous le voulons aujourd'hui que... le bonheur soit la lumière au fond des yeux, au fond du cœur, et la justice sur la terre. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice, liberté. Le mot enfant. Et le mot gentillesse, et certains noms de fruits, et certains noms de fleurs. Le mot courage, et le mot découvrir. Le mot frère, et le mot camarade. Et certains noms de pays, certains noms de villages, et certains noms de femmes et d'amis. Ajoutons-y Mazé. Mazé est mort pour ce qui nous fait vivre. Tutoyons-le. Sa poitrine est trouée, mais
il a lutté pour ce qui nous fait vivre. Tutoyons-nous. Grâce à lui, nous nous connaissons mieux. Son espoir est vivant. Paul Éluard.
Cette version que, du poème d'Éluard, Un homme est mort, et a été créée en fait très peu de temps après l'événement. Et c'est raconté dans le livre de Chris et Davodo. Et là, puisque donc là en face, ce qu'on a mis évidemment, c'est la case de bande dessinée, c'est Édouard Mazet. Et je vais demander à Ernest de nous raconter les derniers moments. Si tu t'en souviens.
Les derniers moments, ça s'est très vite passé, quoi, parce que j'ai vu des camarades tomber à mes pieds pratiquement. Puis j'ai vu mon frère ensuite transporté par deux camarades. Et il avait, comme je vous ai déjà dit, un trou dans le front. Et puis les gardes mobiles n'ont pas bougé. Ils ont, je pense que peut-être qu'ils avaient honte de ce qu'ils avaient fait, parce que c'était vraiment, et ça s'est terminé comme ça.
Josie, tu me disais qu'il y avait une histoire qui s'est déroulée un peu plus haut avec les autres CRS, parce qu'il y a un moment de désarroi. On apprend de façon un peu diffuse que visiblement un homme est mort. Et les CRS se font traiter d'assassins en haut.
Je ne peux pas dire, moi, si ça s'est passé directement comme ça, parce que ce que je vous raconte, c'est ce que mon père m'a dit. Et comme il était déjà à terre, il n'a pas pu expliquer ça davantage. Il a été...
Ici, on était au corps à corps avec les gendarmes. Et à un moment donné, même, j'étais blessé moi-même, un bon coup de crosse en pleine figure, avec moitié fracture du crâne. Et on était au corps à corps avec eux. Et j'ai vu M. Causien, je l'ai su depuis que c'était M. Causien, qui avait pris le fusil d'un gendarme, et il a cassé sur le bord du trottoir. Et moi, comme j'étais KO debout, je voyais plus clair que d'un œil. J'ai fait demi-tour pour partir par là, parce que là-bas, il y avait des dizaines de gendarmes encore armés. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu la fusillade.
On peut dire ce qui se passe après, peut-être le 18. C'est très important, la suite. Je crois que c'est encore même plus important pour l'avenir. Le 18 avril, il pleut fort, comme ce matin un peu. 20 000 personnes se réunissent en meeting à ce qu'on appelait le nouveau théâtre, rue Yves Collet. Oui. 20 000 personnes, la police est invisible. Un cortège quitte le nouveau théâtre pour venir vers ici, rue Kerabekam, et défiler avec émotion devant le tertre qui a été édifié et veillé pendant toute la nuit par les camarades syndiqués. Et la flaque de sang est énorme, elle est là, les gens passent devant et déposent des fleurs. Il y a aussi des drapeaux. Le 18 avril, une plainte est par les victimes est également déposée auprès du procureur de la République de la part d'Édouard Mazet et des quatre autres victimes les plus graves, Causien, Ménès, Guénéguès et Kerouas. Ils organisent il pense à l'organisation des obsèques. Le 19 avril, 80 000 personnes vont ici participer aux obsèques. Le corps va aller donc jusqu'à l'église Saint-Martin. Il y a tellement de gerbes que les gens passent entre des murs de fleurs qui s'écroulent les unes sur les autres. La ville est morte. Les commerçants ont baissé le rideau. Le 20 avril, il faut savoir ça, le 20 avril, les syndicats, ces bureaux syndicaux sont encore en réunion pour savoir comment faire par la suite, parce que les grèves durent toujours. Et ils apprennent vers midi que vont être jugés dans l'après-midi tous ceux qui ont été emprisonnés, les deux députés, Marie Lambert, Alain Signor et Alain Buquet, Cadieu, les responsables syndicaux, donc, et les dockers du 3 avril. Les ouvriers, toujours le téléphone arabe, les ouvriers arrivent en foule pour encadrer le palais de justice. Et à ce moment-là, le palais de justice, vous le voyez peut-être sur votre carte de 1950, il y avait encore autour quelques morceaux de remparts. Et il y a des photos de l'époque qui sont prises et on voit les ouvriers qui sont autour du palais de justice et d'autres qui sont debout là sur ou assis sur les remparts. C'est très dur. Il y a 3000 CRS cette fois, c'est sûr. 3000 CRS qui vont arriver, camion par camion, jusqu'au palais de justice. Et comme disent les responsables syndicaux, faut tenir les gars pendant ce temps-là pour empêcher qu'une deuxième journée de drames sanglants n'arrive. On va les tenir jusqu'à 19h40. C'est à cette heure-là seulement que les prisonniers arrivent dans des voitures. Le procès donc a lieu là dans le palais de justice. Les ouvriers restent, font le siège tout autour. Et c'est seulement à 1h du matin que les conclusions arrivent. Alors, ces conclusions, c'est jugé comme une victoire populaire. Levée provisoire des poursuites contre les deux députés. Provisoire. Peine de prison avec sursis pour les autres. Le 27 avril, amis brestois, le 27 avril à l'Assemblée nationale, rappelez-vous, et vous pouvez vérifier dans les BO, les députés communistes demandent une interpellation portant sur la responsabilité du gouvernement dans les événements brestois. Ils ne sont soutenus par personne. Il y a vote et c'est refusé. Aussitôt après, il y a des députés de droite qui demandent la reprise des accusations contre les deux députés communistes. Un nouveau vote a lieu, exactement dans les mêmes proportions de voix, mais à l'inverse, c'est accepté. 27 avril 1950, ça vous voyez, ça me paraît aussi grave que le 17 avril. Conséquences, elles sont graves. En 1951, la plainte déposée par les victimes se termine et clôturée par un non-lieu. Le juge Sultana qui le signe dit non-lieu. Le 17 avril 1950, Édouard Mazé a reçu une balle de personne. Il n'y a pas de statut de handicapé, pas de pension, pas d'indemnité. Mon père n'a obtenu une simple carte d'invalide qu'en 1978, 28 ans après. Mais s'il était encore là, je peux vous dire. Ce qu'il a retenu de ça, c'est la solidarité. Une magnifique solidarité. Les gars de l'atelier de l'Arsenal où il travaillait, pendant 6 mois, vous entendez, 6 mois, c'est beaucoup pour des salaires d'ouvriers. Pendant 6 mois, ils ont donné un pourcentage de leur salaire pour compléter sa demi-solde de longue maladie. Toutes les quinzaines, on était payés toutes les quinzaines à ce moment-là, toutes les quinzaines, l'un d'eux arrivait avec son enveloppe. Et c'était réglé. Il voulait dire ça parce que, disait l'Arsenal, il y a des gens qui toujours ironisent à son sujet. Ben là, j'ai trouvé de très belles choses. Des gars courageux, des gars sérieux, des travailleurs. Et un jour, au bout de 6 mois, l'enveloppe n'est pas arrivée. Mon père, sur ses béquilles, il était toujours en béquille à ce moment-là, il a fait les 2 kilomètres pour aller à l'Arsenal, à pied bien entendu. Et quand il est arrivé, il a appris qu'il avait été jugé incapable de remplir un poste, un emploi désormais dans l'Arsenal. Il était donc viré, tout simplement. Le médecin-chef de la marine était furieux qu'on lui fasse endosser cette responsabilité. Monsieur Causien devait bien pouvoir trouver un emploi pour handicapés. Et il va les obliger à lui trouver un poste avec l'aide, bien sûr, des syndicats. Et quand il est arrivé au boulot dans ce nouvel emploi, la parole de son chef, la première chose qu'il lui a dit, il me le rappelait, c'est « Alors, Causien, j'espère que ça t'a servi de leçon et que tu vas te tenir à carreau maintenant. » Eh bien, je peux vous dire, ami brestois, il s'est tenu à carreau. Il n'a jamais cessé de lutter jusqu'au dernier jour de sa vie.
Mais avant de conclure vraiment, je voudrais quand même donner la parole à Robert Salin, si voilà, il arrive. Parce que là, on vient de raconter une journée dramatique, 17 avril 1950. Mais c'est pas seulement un point d'histoire. C'est même en droite ligne avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et Robert, toi, tu t'occupes des questions d'histoire à la CGT. Tu vas pouvoir nous en parler.
Oui, d'abord peut-être un point. Ici, ce sont les gendarmes de Châteaulin qui ont tiré. Nous avons aujourd'hui, parce que les archives sont ouvertes, nous avons l'ensemble des éléments du dossier, nous avons tous les rapports. Hélas, nous cherchions des responsabilités nationales parce que Josy vous a tout à l'heure parlé de Colin qui était député et qui était ministre. Il n'est pas pour rien sans doute dans ces événements, mais tout a été, en tout cas tout ce qui concerne le national a été enlevé avant que ça parvienne aux archives. Nous avons cependant un certain nombre d'éléments sur tout ce qui s'est passé. Et donc vous pourrez le voir si vous le désirez. Dans les semaines qui viennent à la Maison du Peuple, puisque une exposition de 24 panneaux avec des photos totalement inédites de cette période des jours autour du 17 avril, et suivant, photos totalement inédites, donc il y a sur cette exposition, vous verrez dans la presse le jour et la date de le jour et l'heure de l'ouverture. Mais voilà. On se félicite, et on peut tous se féliciter, que s'il y a eu aujourd'hui un certain nombre de marches pour voir, de balades, pour voir l'architecture brestoise, c'est une bonne chose. On se félicite qu'il y ait aussi le patrimoine social qui n'est pas oublié. Parce que le patrimoine social nous montre quand même que ce sont les salariés qui ont construit tous ces bâtiments, qu'ils soient somptueux ou non. C'est Édouard Mazé et ses camarades de lutte qui ont reconstruit Brest. En 1950, ils se battaient, Josy l'a dit, pour le pain, la paix et la liberté. Oui, pour le pain, parce qu'ils se battaient pour pouvoir vivre dignement, eux et leur famille, en exigeant, en réclamant 150 francs d'augmentation. Ils se battaient pour la paix, puisque c'était l'époque de la guerre d'Indochine où une grande partie de l'argent de l'État partait à la guerre d'Indochine plutôt que pour reconstruire le pays qui en avait bien besoin et pour pouvoir financer un certain nombre d'aides pour les travailleurs en difficulté. Et puis, la paix, c'est aussi des dockers qui refusaient de charger des bateaux, de charger des armes sur les bateaux devant partir en Indochine, et la liberté, puisque ces dockers se sont retrouvés, ça a été dit, en prison, mais un certain nombre de militants CGT également en prison, direct Pontagnou, ça allait vite, des députés en prison. Et puis, le nombre de coups de grenades lacrymogènes pour la première fois à Brest était extrêmement important. Donc, pain, paix et liberté. Dès la fin du 19e siècle, d'ailleurs, Brest, qui est une ville ouvrière, s'est battue et continue de se battre pour des idéaux de justice, de paix, de liberté et d'égalité. Alors, pour ne prendre que la période d'après-guerre, la lutte des ouvriers de la Sobrena, c'est la filiation directe de celle des manifestants du 17 avril 50. Parce que qu'est-ce que serait Brest aujourd'hui si on ne prend que les luttes d'après-guerre et quelques-unes, bien sûr? Que serait Brest aujourd'hui s'il n'y avait pas eu toutes ces actions importantes, longues et souvent dures? Thompson, que le gouvernement voulait vendre pour un franc symbolique. Sans ses salariés en lutte, eh bien, il n'y aurait plus d'usine là-bas, là où part le tram. L'usine existe toujours, elle a changé de nom, certes, elle s'appelle aujourd'hui Thalès, mais elle est bien là. Que les ouvrières et les ouvriers d'Alcatel, avec des luttes très dures et très longues, ont permis de maintenir une usine aujourd'hui jabile, même s'il y a moins, hélas, de salariés qu'il n'y en avait avec Alcatel. Les agents des services publics ont, par l'action, permis d'éviter un certain nombre de fermetures de bureaux et de maintenir autant que faire se peut une qualité de service, notamment dans cet établissement qui est juste derrière nous, à l'hôpital, où, hélas, les orientations sont de fermer un maximum de lits et de services. Les ouvriers de l'arsenal et les sous-traitants de la métallurgie n'ont certes pu empêcher totalement la casse. Des emplois ont été perdus. Mais ils ont évité le pire, c'est-à-dire l'application pure et simple du plan Million qui prévoyait pratiquement la disparition de l'établissement. La mobilisation, d'ailleurs, à cette époque de la population avec Brest en lutte pour vivre d'abord, puis Brest debout ensuite, a montré que c'est toute la ville qui sait se mobiliser pour son avenir. La réparation navale civile existe toujours à Brest, mais ça ne s'est pas fait sans mal et surtout sans lutte. Combien de journées de grève, combien de feuilles de paye vierges ou presque à la fin du mois, combien de sacrifices, combien de voitures, voire de maisons vendues pour tenir le coup. J'en connais certains qui ont dû vendre voitures et maisons pour poursuivre la grève, pour maintenir l'activité navale à Brest. Des AFO aux Arnauds, puis à la Sobrena, les métallos, les caréneurs ont su souvent, avec l'aide des autres professions et de la population, maintenir cette activité ô combien importante pour Brest. Depuis 1950, il n'y a fort heureusement pas eu d'autres morts dans les manifestations. Mais combien de milliers de coups de matraque et de grenades lacrymogènes ? Fidèle à Édouard Mazet et ses camarades, les travailleurs brestois poursuivent la lutte pour un avenir meilleur, car le combat continue dans ce que l'on appelle Brest la Rouge.
Bon, ben, je vais dire le dernier mot, ou presque, donc en vous remerciant d'être venu ici, et effectivement pour relier une dernière fois le passé au présent. On me demande souvent, en tant qu'auteur qui travaille cette matière historique, quel est l'intérêt de faire revivre ces épisodes du passé. Je voudrais souligner que quand même le passé, ce n'est pas quelque chose qui est mort, c'est jamais mort, au contraire. C'est quelque chose qui vit souterrainement, certes, comme les racines, mais c'est quelque chose qui nous relie. Et justement, lorsqu'on parle d'oppression d'État ou de mensonge d'État, des fois, il ne faut pas non plus aussi oublier qu'une partie de ceux qui ont reconstruit Brest venaient de bien plus loin que la Bretagne. Et j'aimerais bien vous inviter pour conclure, voilà, à écouter une communication qu'a à nous faire le collectif Casse-Papier qui est en face de nous et que je vous invite à aller traverser là-bas. Et donc, encore une fois, merci à tous.
Alors, d'abord, merci à Chris de nous laisser prendre la parole. Donc, on est des membres du Casse-Papier, un collectif de soutien et de solidarité aux personnes sans papier. On prend la parole juste pour vous signaler qu'en ce moment, les luttes continuent. Et donc, depuis lundi dernier, on a occupé BMH pendant 4 jours, donc Brest Métropole Habitat, pour chercher des logements durables et faire pression sur le préfet et le maire pour qu'ils s'activent un petit peu, parce qu'il y a des demandeurs d'asile à la rue avec des enfants et on trouve cette situation inadmissible. Alors, jeudi dernier, alors qu'on habitait à BMH finalement et qu'on y dormait, on a reçu un huissier de justice qui est venu prononcer la décision du tribunal de grande instance, comme quoi on devait évacuer les locaux immédiatement, ou alors il faisait intervenir les forces de l'ordre. Donc aujourd'hui encore, finalement, la violence policière, ou du moins la pression policière, s'exerce toujours sur les militants. Et après, on a décidé de ne pas prendre le risque de faire intervenir les forces de l'ordre et que ces demandeurs d'asile ne soient pas choqués parce que forcément ils ont la peur des policiers, etc. Donc on a décidé d'évacuer les locaux et jeudi on s'est installé au gymnase de l'Arteloire, juste à côté de la bibliothèque universitaire. Donc on y est encore en ce moment et ça fait une semaine qu'on fait donc une occupation de lieux publics et que les pouvoirs, les pouvoirs publics ne nous répondent pas et nous ignorent tout simplement. Alors, vendredi dernier, on a décidé de s'inviter au Conseil des communes, qui avait lieu juste un peu plus haut, pour exprimer notre indignation et, encore une fois, faire pression et avertir François Cuyandre de la situation. Et il nous a plus ou moins ignorés. Il a voulu très vite reprendre les votes et son conseil. Mais on souhaite vous dire qu'il y a des gens qui se bougent et on trouve ça inadmissible que les demandeurs d'asile, qui sont des familles avec des histoires souvent très très compliquées, des histoires de vendetta dans leur pays, qui viennent souvent des pays d'ex-Yougoslavie, qui ont des situations très très difficiles. Et aujourd'hui, on réclame vraiment des logements pérennes. Ça suffit de mettre les gens, ceux qui sont pris en charge, ils sont dans des hôtels pour 3-4 nuits, au mieux une semaine. Donc c'est une vie où ils ne peuvent pas rebondir finalement. On les garde dans la précarité volontairement. Et si le droit d'asile existe, le droit à l'hébergement doit exister aussi. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, vous informer, vous manifester notre soutien. On est au gymnase de l'Arteloire et il y a une assemblée générale à 19h30. Vous êtes tous plus que les bienvenus.
Donc, il me reste à vous dire merci. Cette très courte balade, hein, toujours trop courte, mais voilà, ça conclut les 30 balades de la journée sur, effectivement, on l'a dit, l'architecture, la végétalisation, l'histoire, la marine et donc le social, les luttes sociales. Je remercie donc nos amis de Casse-Papier pour leur message. Je remercie évidemment tous les intervenants, Ernest Mazet, Josie Mazet, Chris, Erwan Lebotte, Robert. Je vous remercie surtout d'avoir eu la patience, malgré les difficultés un petit peu techniques, d'avoir suivi cette balade jusqu'au bout. Et en espérant que cette tranche d'histoire ne soit pas une tranche d'histoire morte, mais une tranche d'histoire vivante. Merci.
Je sais pas où est ton fiston, hein.